Vous vous souvenez que Manon Massé avait, je ne sais pas si elle a inventé cette expression-là, moi c'était la première fois que je l'entendais, mais en parlant de quelque chose ou de quelqu'un, elle avait dit « c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte », en voulant dire « c'est pas le crayon le plus aiguisé ». Là. Alors c'était très très bon, ça avait fait rire beaucoup de personnes, je pense, j'ai l'impression qu'elle l'a inventé.
Oh oui, j'ai jamais entendu ça.
Moi non plus, mais bref, c'est pour ça qu'elle a appelé sa tournée comme ça, la tournée la plus dégelée de l'été. Donc elle était avec Jean-Simon Buis et François Blanchette au FM 93 hier midi. Alors premièrement, ce qu'on lui a posé comme question, ben, pourquoi ce nom de tournée et ramener son expression du pogo le plus dégelé de la boîte?
Ben, dans le sens où on peut l'utiliser à toutes sortes de sauces, sans mauvais jeu de mots. Et au chaleur qu'il fait de ce temps-là, M. Buis, je pense qu'il faut que les pogos dégèlent, on n'a pas le choix.
C'est très, très bon. Beaucoup de réparties, hein, Mme Massé, pour ça. Puis il faut savoir aussi que Manon Massé a déjà commencé donc une tournée. Partir une tournée en plein été comme ça, quand les gens sont en vacances, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, les autres savent, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que vous avez tellement la tête à la politique et à la campagne électorale présentement. Ça peut être risqué de commencer une tournée dans ce contexte-là, parce que j'ai pas l'impression que les yeux et les oreilles sont rivés vers la politique présentement et qu'on est prêt à entendre parler de politique. Alors, pourquoi déjà commencer le travail de campagne électorale?
Même si la campagne électorale se déroulera de façon officielle au mois de septembre, on le sent déjà, le vent est en campagne et c'est la même chose pour Québec solidaire. On est sur le terrain, on se promène, on visite nos candidats-candidates, on visite la population, ça nous amène à travers le Québec. Ici à Québec, vous le savez, hein, dans Tachereau avec Catherine Dorion et dans Jean Lesage avec Sol Zanetti, ça brasse, sous le terrain, ça sent bon, comme dirait l'autre.
Ah, écoute, si elle voit qu'elle a une certaine réponse de la part des gens sur sa tournée, tant mieux. Moi, j'ai vraiment, vraiment pas l'impression que vous avez le goût d'entendre parler de politique présentement. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale prend relâche toujours pendant l'été, mais c'est pour ça que les émissions qui font de la radio ou de la télé l'été, on essaie de trouver des sujets autres que la politique, premièrement, parce qu'il y a de moins en moins de nouvelles, puis deuxièmement, parce que vous avez pas la tête à ça. Alors, c'est un pari risqué pour Manon Massé, mais elle semble dire que la réponse est bonne. Alors, tant mieux si ça fonctionne. Vous savez que le Québec, particulièrement à Québec, les idées de gauche, on est peut-être un petit peu moins réceptif à ça. On est plutôt une population qui prône les idées plus de centre ou de droite. Et la question qu'on a posée à Manon Massé, est-ce que Québec ou la province de Québec est aussi peu ouverte aux idées de gauche qu'avant?
Ce fameux sentiment que la ville de Québec est pas très à gauche, est pas très Québec solidaire, je regarde juste la circonscription de Tachereau. Présentement, c'est la circonscription au Québec qui a le plus de membres de Québec solidaire, qui a jusqu'à cette année ramassé le plus d'argent pour préparer le front électoral, et etc. Bref, tout ça pour dire que les progressistes, il y en a toujours eu à Québec. Ils sont là et à travers Québec solidaire dans Tachereau, je pense qu'ils sentent qu'il y a une voix qui peut les représenter à travers Catherine Dorion.
Bon, prochaine question. Je sais que vous l'attendez. Si vous n'avez pas nécessairement envie d'en entendre parler présentement, parce qu'on en a parlé à outrance dans les dernières années, spécifiquement dans les derniers mois et encore plus dans les dernières semaines, c'est sur le fameux troisième lien. La position de Québec solidaire et la position de Manon Massé sur le troisième lien, c'est quoi?
Ben, pour nous, le troisième lien, en fait, c'est un leurre. Et c'est ça que nous, on continue à expliquer, à mettre de l'avant, c'est-à-dire le troisième lien. Si c'est de construire seulement plus de places pour les autos, en moyenne, ça prend 5 à 8 ans et la congestion est de retour. C'est quoi l'idée de rentrer plus vite dans le centre-ville pour être congestionné dans le centre-ville de Québec? Alors, ce qui est la solution au déplacement, à la mobilité et permettre aux membres de retrouver le temps qu'ils ont envie de retrouver pour se retrouver dans leur famille, faire autre chose que d'être dans la voiture, ça s'appelle le transport collectif.
Bon, c'est assez clair. Je pense
donc, elle est pour le tramway, autrement dit.
C'est ce qu'on semble comprendre.
C'est ça, c'est pour le transport collectif. Pour le troisième lien, si c'est pour ajouter seulement plus de voies aux voitures, peut-être un peu moins. La position sur le troisième lien que moi j'ai depuis le début, vous la connaissez, c'est montrez-moi que ça va vraiment améliorer le trafic à Québec et non pas l'empirer à moyen terme et à long terme. Et je suis pour à 100%. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va pas aller de l'avant avec un troisième lien les yeux fermés en se bouchant les oreilles, en sachant pas c'est quoi les impacts. Faites une étude étude d'impact qui va être neutre, pas une étude d'impact qui est pro troisième lien, pas une étude d'impact qui est pro transport en commun, qui est neutre, et qu'on va évaluer les réels impacts et les réelles incidences sur le trafic, et ensuite on va prendre une décision. Malon Massé, bon, il semble dire transport en commun d'abord et le troisième lien juste si ça n'ajoute pas simplement des nouvelles voies aux automobilistes. Il faut que ça aide aussi au niveau du transport en commun. Alors on verra ce que ça va donner. Et maintenant sur le budget, sur l'image classique de Québec solidaire qui dit ils vont nous prendre de l'argent de plus s'ils mettent dans le gouvernement mais moins dans nos poches, on va augmenter les impôts, tout notre argent va aller au gouvernement. Qu'est-ce que dit Manon Massé là-dessus?
Vous avez raison, il y a de l'argent que les gouvernements antérieurs n'ont pas eu le courage politique d'aller chercher. Par exemple, les redevances minières. Comment se fait-il qu'on fait plus d'argent au Québec avec les permis de chasse et pêche qu'on en fait avec les redevances minières? Ça ne tient pas la route, ça. Ça, c'est quelque chose où on dit aux Québécois et Québécoises, oui, Québec solidaire, on va se tenir debout devant les industries minières. Un autre élément, toute la question de l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, etc. C'est pas juste le fait de mettre un haut là et de s'assurer que l'argent qui devrait aller dans le portefeuille collectif vienne dans le portefeuille collectif, c'est voire même de changer des lois qui ont été complaisantes pendant des années. Alors, quand on dit payer plus d'impôts et de taxes, les gens ils pensent tout de suite les individus. Mais attention là, il y a bien d'autres entreprises qui à notre face, ne paient pas leur juste part, alors qu'au contraire, nous autres, la classe moyenne, on est pognés à la gorge parce que, malheureusement, il y a manqué de courage politique par le passé pour aller chercher de l'argent où qu'elle est.
Bon, mais la position est claire, ça le mérite d'être assez transparent par rapport à leurs intentions sur le budget. Manon Massé était présente sur nos ondes hier midi pour parler de sa tournée qui s'appelle la tournée la plus dégelée de l'été. Vous allez peut-être avoir l'occasion de la voir à certains endroits au Québec pour cette tournée politique.
Elle était à la lutte hier à NSPW à Québec, ouais, à Limoilou.
Oh, je savais même pas qu'il y avait de la lutte hier.
Oui, il y avait de la lutte hier et la prise du sommeil.
Ah oui, c'est vrai.
Sur son compte Twitter.
OK, elle a participé un petit peu, là.
Possiblement, ouais.
Ah ouais. Mais c'est bon, ça fait des bonnes photos pour les réseaux sociaux politiques.
Ouais, et parlant de bonnes photos, quelqu'un qui nous propose que dans sa tournée, elle ait un petit stand d'Apogo.
Ah, ce serait bon, ça, pour donner aux partisans là, qui viennent signer une carte de membre pour Québec solidaire. Il est 7h35.
Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3.
Rabais vacances chez ADM Sport. Achetez un produit sélectionné en spécial et courez la chance de gagner 300$ en carte cadeau. Pour des vacances mémorables à moto, un seul endroit, ADM Sport, Québec et Saint-Hyacinthe.
C'est l'événement 50e anniversaire Mazda chez Donnacona Mazda qui vous offre le Mazda CX-5 2018 à 69$ par semaine, location 60 mois avec léger comptant, plus 0% financement à l'achat et jusqu'à 750$ en bonus 50e anniversaire. Votre nouvelle Mazda, c'est la Donnacona Mazda, ouvert le samedi.
FM 93, dès le 13 août, au FM 93. Ségal Lavoie, le midi.
Ici Luc Lavoie. Je me joins à Myriam Ségal pour Ségal Lavoie le midi. Dès le 13 août au FM 93.
Débat, dossier chaud, entrevue, l'effet d'hiver, l'effet d'été aussi. Ségal Lavoie le midi avec Luc Lavoie.
Le seul être humain qui a une plus grosse voix que moi.
Et Myriam Ségal.
Le seul être humain qui a une plus grosse... non.
Ségal Lavoie le midi.
Dès le 13 août.
FM 93. Ça me parle.
FM 93, ce midi, avec Jean-Simon Buis et Yves-François Blanchette.
Êtes-vous pour ou contre l'obligation du port du casque à vélo?
Moi, ce matin, ma conjointe a eu un accident à vélo. Oh. Puis, présentement, l'urgence de l'enfant Jésus. Puis, j'ai dit à quelques reprises, tu vas porter ton casque. Elle en a un, puis elle a dit non. Puis là, ce matin, elle s'est quasiment arrachée une oreille.
Aïe, aïe.
FM 93, ce midi, avec Jean-Simon Buis. François Blanchette.
La marque Griffe Cuisine.
Faites donc comme moi. Offrez-vous le bonheur d'avoir une cuisine griffée. Moi, j'ai été soufflée par leur professionnalisme. J'ai trippé sur la designer. Et le plus surprenant, c'est que je suis restée calme. Mais c'est normal, ils m'ont tellement mise en confiance. Et grâce à leur certification Dynamic Space, qui maximise l'espace et minimise les déplacements, je suis comme un poisson dans l'eau dans ma nouvelle cuisine. Vous aussi, offrez-vous la griffe.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
FM 93.
93.
7h37, allons rejoindre pour ma dernière fois la chronique d'Yves-François Blanchette à 7h6, à tous les jours, vous l'avez entendu tout l'été. Yves-François, bon matin.
Ben oui, ta dernière fois.
Oui.
Mais là, je me pratique avec Jean-Simon tous les midis.
Ah, c'est vrai. Fait que ça devrait bien aller.
Ça va prendre un apprentissage,
là.
Parce que là, je suis habitué de travailler avec toi tous les matins. Là, je vais avoir un deuil à traverser.
Ben, j'espère. Puis, écoute, je te souhaite que ça soit pas trop difficile. Tu sais que le deuil va être difficile.
Pour l'instant, le midi, ça va quand même assez bien. On a une dernière fois à midi. Fait que, tu sais, on fait attention pour préserver l'avenir.
Ah oui, vous avez bâti la relation. Alors, ça devrait bien aller lundi prochain.
C'est une intimité complice.
Super. Et François, parlons évidemment de Montréal et de la pointe de l'île, de Pointe-aux-Trembles, en fait, pour voir un petit peu que c'est un château fort péquiste et qui est sérieusement menacé présentement.
Je ne veux pas achaler le monde de Québec avec les histoires de Montréal, mais des histoires comme celle-là, il n'y en aura pas beaucoup sur la carte électorale de cet automne. On se rappelle tous de l'atterrissage de Jean-Martin Hossan, qui revenait au Parti québécois après, bon, on connaît tout le périple, l'Option nationale, séjour à Londres et tout et tout. Et il annonce, mais un peu comme presque cheveux sur la soupe, qu'il revient. Et là, il veut pas dire où est-ce qu'il va, mais trois jours après, on apprend que c'est Pointe-aux-Trembles. Il y a une bousculade à savoir qui de lui et de Maxime Laporte sera candidat dans Pointe-aux-Trembles. Il gagne l'investiture, comme on dit en français, fair and square. Le voilà candidat, mais la coalition Avenir Québec arrive avec sa propre candidature, rien de moins que la mairesse d'arrondissement, Chantal Rouleau. Personnage coloré, en tout cas, personnage avec un passé politique. Et bien sûr, on s'attend à ce que les mises en échec soient complétées avec le coup d'élevé. Et c'est bien ce à quoi on assiste. Et là, je reçois depuis un bout de temps. Là, j'accumule ça, puis je fais le ménage là-dedans. Puis il y a des affaires pas crédibles que je jette. Puis il y a des affaires plus crédibles que je garde. Des éléments qui sont, on va dire, des angles d'attaque du Parti québécois. Parce que, aussi, on va se le dire, là, la candidate de Québec solidaire s'appelle Céline Pereira. Et Mme Massé peut-être ferait dans Pointe-aux-Trembles comme à Québec en disant « Oui, oui, on va gagner tous les comtés ». Je pense que Québec solidaire gagnera pas plus Pointe-aux-Trembles que Taschereau, là. Et le Parti libéral a un candidat qui s'appelle Éric Ouellet, qui est un col bleu qui travaille bien sûr et qui demeure bien sûr dans Pointe-aux-Trembles et qui n'a pas été encore s'acheter des sous de député d'après moi parce que ses chances sont vraiment limitées. C'est vraiment une course entre Jean-Martin Hossan et Mme Rouleau. Les chiffres de sondage et les chiffres de projection mettent la coalition Avenir Québec sur le bord et peut-être même franchement dedans pour une première percée sur l'île de Montréal, alors qu'à Québec, c'est complètement le contraire. Là. C'est la probabilité, c'est qu'ils vont tout ramasser. Donc, on est dans une situation assez différente. Et là, le PQ fait une série d'attaques, puis on va pouvoir en discuter là sur l'ambiguïté qu'il y a entre le rôle de Mme Rouleau comme mairesse de l'arrondissement et son rôle comme candidate de la coalition Avenir Québec. Et là, la coalition de Québec prête plus flanc à ça, parce que s'il y a quelqu'un qui danse sa table en criant qu'ils sont la nouvelle incarnation de la vertu,
ben c'est bien eux, non?
C'est bien la CAQ.
Ben oui.
Alors, la mairesse, exemple, a à chaque semaine une petite chronique payée par l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles avec sa face. Puis c'est une histoire. Est-ce que c'est comme candidat de la CAQ? Non, bien sûr, c'est comme mairesse.
Mais
bien
là,
sûr, la CAQ va dire, ben oui, mais l'arrondissement arrête pas d'exister jusqu'à l'élection.
Non, je sais bien, mais tu sais, c'est...
OK. Quand même, on dit OK. Après ça, le marché public émet des permis pour qui peut avoir un kiosque au marché public ou ben donc pas. Refus à tous les candidats de partis politiques. Jean-Martin Hossan se prive pas d'arriver là-bas avec ses militants qui ont tous des chandails du Parti québécois, mais il n'y a pas de kiosque. Mais elle dit, elle a un kiosque de l'autre bord de la rue.
Ouais.
Sauf que la CAQ dit au bord de la rue, c'est son bureau de comté. Bon, OK.
Mais c'est comme pas juste, là, ouais.
C'est un événement. Ouais. Son bureau de comté, ils disent qui c'est qui paye ça. Ben, la CAQ dit c'est le régional de la coalition Avenir Québec qui paye parce que la rumeur veut qu'il n'y a pas beaucoup de membres ou de financement qui se fait dans Pointe-aux-Trembles pour la coalition Avenir Québec. C'est relativement vrai à l'échelle du Québec. On dit oui, mais il y a plein d'activités dans le comté. Des activités pour lesquelles les gens vendent des billets. Qui paye ces billets à elle? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la CAQ? Est-ce que c'est elle personnellement? Parce que les autres candidats payent le billet de leur poche.
Ah, c'est qui,
finalement? Intéressante question à laquelle on n'aura jamais la réponse.
Ah non? Ah, fun.
Lorsque le Parti québécois débarque à Montréal et dit « Voici le grand déblocage, leur vision du projet de transport en commun », la mairesse de Pointe-aux-Trembles refuse de commenter. Non, moi je parle pas de ça. Mais lorsque la coalition Avenir Québec propose son propre projet de transport collectif à Montréal, elle fait l'annonce avec la CAQ. Comme mairesse d'arrondissement ou comme candidat de la CAQ? Elle va dire comme candidat de la CAQ. Bien sûr. OK, mettons.
On dirait que je suis mal à l'aise.
Lorsque
avec
la
ça.
Coalition Avenir Québec annonce un projet pour la plage de l'Est, une plage qui est à Pointe-aux-Trembles, qui est populaire pour les gens du coin, donc c'est dans le comté et dans l'arrondissement de Mme Rouleau, la CAQ va faire une annonce. Là, on est carrément dans le carré de sable, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est une plage de la mairesse. Mais la mairesse est à l'annonce partisane de la CAQ. Comme mairesse ou comme candidate?
C'est vraiment bizarre tout ça, parce que d'un côté tu dis ok, faut pas qu'elle arrête d'exister comme mairesse parce qu'elle est candidate de la CAQ, mais ça lui donne droit à de la visibilité puis des privilèges qui sont un petit peu ambigus là.
C'est ce que les gens de Jean-Martin Rossan disent et c'est ce dont veut se défendre bien sûr la coalition Avenir Québec. Et là, l'autre angle, c'est le salaire. Et là, on a deux cas qui pourraient avoir l'air de zones grises. Là, la course à part. La mairesse garde sa paye de mairesse, non seulement jusqu'à l'élection, mais pendant la campagne électorale. Oups. Wow. Ils disent, ouais, Hossan, il fait pareil. Non. Hossan, Anna abandonne sa paye de conseiller de Jean-François Lisée à l'Assemblée nationale au déclenchement des élections. Elle a dit, oui, mais c'est pas pareil. Puis le commissaire à l'éthique de la Ville de Montréal a dit, c'était correct. Ah, je vais donner ma paye à des organismes de charité. Ça veut-tu dire que tu vas prendre ta paye de mairesse, qui est de l'argent de payeur de taxes, et elle l'a donnée à des organismes en disant, regardez, voici un cadeau de la candidate de la CAQ. Ouais. Si elle veut éviter ça, il y a une seule manière. Va donner ça à l'autre bout de l'Île de Montréal, puis fais pas de communiqué. Sinon, encore une fois, une ambiguïté embêtante. Toi, t'es un organisme communautaire à Pointe-aux-Trembles. La madame a dit, écoutez, si je gagne, je suis votre député. Si je perds, je redeviens votre mairesse le lendemain matin. Ça vous tente-tu d'être contre moi? C'est un peu plus dur.
Oui, c'est vrai.
Bon, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle n'a pas le droit? Et là, évidemment, les classiques. Qui va payer pour l'élection partielle? Parce que elle a annoncé son intention d'être candidate pour la CAQ 3 mois, je pense, après l'élection municipale. Sans jamais y avoir pensé avant. Non. Au moment où elle a été élue municipale, elle n'avait pas pensé aller à la CAQ. Ce qui lui donne de la crédibilité, c'est que dans les dernières années, elle a toujours financé le Parti québécois.
Ah, OK, au moins.
Et jamais la CAQ.
Mais ça a fait d'elle une opportuniste un petit peu aussi, là, au niveau des perceptions.
Il y en a qui disent ça. La CAQ va dire, et ça là-dessus, puis c'est fréquent, là. Moi, j'ai parlé à tout le monde, puis c'est sûr que la CAQ, ils me trouvaient peut-être un peu moins drôle, mais c'est les arguments que le PQ présente. La CAQ dit, écoutez, vous allez en avoir tous les jours de ça. C'est notre business case. Nous sommes un parti qui rallie des gens du Parti québécois et du Parti libéral, entre autres, qui s'en viennent chez nous. Puis il y a aussi des conservateurs fédéraux puis des trucs du genre. C'est ça notre pain puis notre beurre. OK, mais il reste que le citoyen va peut-être dire, oups, c'est amusant. Il y a un mur entre... C'est la CAQ dit ça, puis c'est correct, là. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. La plupart des éléments, il y a des défenses qui ont bien de l'allure. La CAQ dit un mur entre le rôle de Mme Chantal Rouleau comme mairesse et le rôle de Chantal Rouleau comme candidate. Il y a des zones grises, mais il y a un mur. Nous autres, on prétend qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sauf que lorsqu'il y a un organisme de son comté, trait d'union, arrondissement, qui envoie un remerciement à l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles pour un soutien de l'arrondissement à une activité. Oups, c'est avec le compte de la CAQ qu'on leur a répondu merci, on est fin.
Ouais.
Tu sais, s'il va, c'est des petites erreurs de même auxquelles il faut faire attention. Ça, c'est les classiques d'erreurs. Et évidemment, bon, ben, la question de, il va y avoir une partielle qui va être déclenchée si elle gagne le comté. Et ça va coûter de l'argent aux contribuables, comme son salaire, comme ce qu'elle va donner au groupe communautaire, comme les publicités qui sont achetées, comme toutes sortes de trucs. Et donc, comme quoi, ça coûterait quelque chose de l'argent public. Et bien sûr, la protection et la préservation du trésor public d'un vilain gaspillage, ça, c'est le slogan principal de l'existence de la coalition Avenir Québec.
Mais mettons, François, qu'elle perd les élections, là. Elle peut pas retourner directement dans son rôle de mairesse.
Le lendemain matin.
Hein? Il y a pas d'autres élections. T'as pas démissionné d'un rôle de mairesse pour te présenter à une élection d'un autre palier
gouvernemental. En vertu de la loi, demain matin.
Ben là,
les faits sont ceci.
Fait qu'elle est gagnante sur toute la ligne, là. Parce que t'as bien des candidats qui ont dû démissionner de leur emploi pour faire la campagne électorale. Et elle n'a pas à le faire. Aussitôt qu'elle perd, elle peut retourner dans son rôle le lendemain matin.
Ce qu'un copain dit, c'est qu'en l'élection municipale, elle savait déjà qu'elle serait candidate pour la CAQ. Elle dit que non, elle s'annonce pour la CAQ en février. Après ça, elle garde son salaire avant la campagne, pendant la campagne Et si elle ne gagne pas après la campagne, elle garde sa fonction de mairesse ou elle garde son... Si elle perd, elle garde sa fonction de mairesse le lendemain matin. On continue. Risque zéro.
Hey, yo, c'est... Non, alors je suis pas paralysé avec ça.
Un Hossan, par exemple,
ouais,
doit abandonner son emploi et s'aventurer avec un salaire, il faut le dire, avec un salaire de l'Assemblée nationale. Puis Jean-François Lisée, il n'a pas donné un salaire juste pour ses beaux yeux. Il a donné un salaire parce que le gars, il voulait avoir un revenu en attendant l'élection. Alors, Jean-François Lisée lui a donné un revenu. Ce revenu-là, lui, il doit l'abandonner au déclenchement de l'élection. Puis entre toi et moi, puis à boîte à bois, le PQ aura peut-être pas grand job à donner le 2 octobre.
Et là, là, ouais, c'est à suivre. C'est ça, je trouve pas ça juste.
Fait pareil. Ouais, je trouve pas ça juste. Dire, là, ça criera parce que, évidemment, il y a pas juste du monde qui était content quand il savait que je m'en allais sur ce sujet-là, mais moi, ma job, c'est de dire, écoutez, il y a tout ça. Puis j'ai pas à donner raison à l'un ou à l'autre, mais on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et on savait que ça allait venir, ça. Ça, c'était écrit dans le ciel. Depuis l'annonce de candidature de Mme Rouleau, c'était écrit dans le ciel. Puis moi, j'ai ça depuis un bout, j'accumule, je reçois un texte de journal d'un bord, un truc de l'autre. Je me dis, à un moment donné, il va falloir parler de ça, parce que là, il y a les photos, il y a les captures d'écran, il y a tout ce que tu veux, là. Tu sais, l'affaire de la plage de l'Est, c'est celui qui m'a le plus troublé, parce que tu peux pas avoir prétendu avoir gardé un mur, puis à un moment donné, quand tu vas à l'annonce d'un truc pour ton arrondissement, qui est par un parti politique qui est pas au pouvoir, puis t'es candidate pour ce parti-là, il y a des petites lignes qui vont rester floues. Est-ce que ça va l'empêcher de gagner? Je mettrai pas mon vieux 10 à repasser contre elle.
Et François, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir à tous les jours à cette heure-ci pour la chronique politique. On doit se quitter là-dessus. Alors, merci et les auditeurs te retrouvent lundi à la même heure avec Jean-Simon.
Et oui, ben écoute, je te souhaite de très, très belles vacances et merci. Au plaisir de collaborer de nouveau.
Ben merci beaucoup. Salut François.
Bye-bye.
Il est 7h49.
Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute 13. On est à 93, c'est Bouchard en parle.
Avec Elisabeth Crête.
Dans la catégorie flou dans la loi au niveau de l'alcool au volant. On a une très, très bonne histoire là-dessus ce matin dans le soleil. Et je suis contente d'avoir une conclusion à cette histoire-là parce que moi, c'est une question que je me posais depuis vraiment longtemps. Pas parce que ça m'arrive souvent, là, ça m'est jamais arrivé, mais par curiosité, je me disais, si t'es endormi sous... couché dans ton véhicule qui n'est pas en marche, est-ce que tu peux être accusé d'alcool au volant, finalement, de conduite ou possession d'un véhicule en état d'ébriété si tu le conduis pas et tu n'avais jamais l'intention de conduire? Tu es couché dedans.
Mais oui, il faut pas que tu sois à l'intérieur, il faut pas que tu aies la clé sur toi.
Il faut pas que tu aies la clé sur toi, ouais.
Bon, alors, voici ce qui est arrivé à Granby. Un Sherbrookeois a été acquitté lundi. Acquitté! D'avoir eu la garde et le contrôle de véhicule pendant que ses capacités étaient affaiblies par l'alcool. Mmh. Alors, voici ce qui est arrivé. Les événements se sont produits le 9 juillet 2017, donc l'été passé. C'est dans le stationnement d'un commerce tout près de la rue principale à Granby. C'est ce qui est relaté dans le Soleil ce matin. Sa conjointe n'a pas de ses nouvelles depuis très, très longtemps, donc elle finit par alerter la police puis dire, pouvez-vous aller vérifier, je sais pas, il est où, est-ce qu'il se porte bien, est-ce que tout est beau? Alors, à partir du téléphone cellulaire du monsieur, que la dame, finalement, je sais pas comment ils ont fait, mais elle savait qu'elle l'avait texté ou je ne sais trop, fait qu'ils ont été capables de localiser à peu près, il était où avec le téléphone cellulaire. Et donc, une zone relativement précise où M. Boisclair aurait pu se trouver. Et vers 7 heures ce dimanche-là, donc dimanche matin à 7 heures, les patrouilleurs ont trouvé l'homme en question profondément endormi derrière le volant de sa voiture, pas sur la banquette arrière, derrière le volant de sa voiture, garé dans un stationnement. Après des efforts pour le réveiller, il constate que les clés du véhicule sont à ses pieds, mais aussi une odeur d'alcool et divers autres symptômes d'intoxication à l'alcool. Alors, sur place, il échoue un test réalisé avec un appareil de détection, évidemment. Deux alcootests au poste de police plus tard, c'est assez évident qu'il était en état d'ébriété. Mais là, pour sa défense, lui, quand il est allé en cours, il a dit « J'ai consommé suffisamment d'alcool pour pas être capable de prendre mon volant, mais je suis une personne sérieuse et je conduis jamais quand je consomme de l'alcool. » Alors, je suis allé à Granby, puis après avoir complété mes emplettes à pied vers 22 heures, je suis allé dans un bar, et puis là, j'ai commencé à boire, et puis tout ça. Et avant la fermeture, j'ai constaté que j'avais trop bu pour conduire. Alors, j'avais pas assez d'argent sur moi pour me louer une chambre d'hôtel, fait que j'ai tout simplement décidé d'aller dormir dans mon auto. Et le lendemain matin, quand je ne serai plus en état d'ébriété, ben, je pourrais reprendre le volant et retourner chez moi. Et le juge a été convaincu de la bonne intention de M. Champoux, et il a dit que puisqu'il n'avait pas l'intention de prendre son véhicule, il est acquitté. Il n'y a pas de crime. Alors, autrement dit, si tu es couché dans ton auto en état d'ébriété, mais tu n'as aucunement l'intention de prendre ton char, puis tu es capable de convaincre le juge que tu avais zéro l'intention de le prendre, tu voulais juste dormir, c'est légal.
Tu pourrais gagner.
Oui.
C'est pas légal, mais tu pourrais gagner.
Parce que ce qu'on a dit, c'est, regarde, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de crime. Tu n'avais pas l'intention de prendre ton auto, tu ne l'as pas fait d'ailleurs, alors ce n'est pas un crime.
Pour moi, ça va créer des précédents. Il y a une couple de personnes qui vont le dire, qui vont le faire, parce que combien de gens ne savent pas qu'ils ne peuvent pas dormir dans leur voiture avec les clés sur soi ou encore face au volant. Il y en a beaucoup. L'année passée, je me rappelle, on avait fait une intervention en onde là-dessus. Puis il y a plein des gens qui nous avaient écrit, hein, on ne peut pas faire ça. Hein, on n'a pas le droit. Même être sur la banquette arrière, là, on n'a pas le droit au moment où la clé est dans l'habitacle, du moins.
Et tu vois, il y a notre collègue qui est à la mise en onde présentement, qui est en train de me parler dans les oreilles. Dis-moi, ça m'est arrivé. Je peux te confirmer qu'il a gagné parce qu'il y a un bon avocat. Parce que moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Et j'ai été reconnue coupable, finalement.
Ah ouais,
alors, hein? Ça doit dépendre de comment tu peux défendre ça. Il y a quelqu'un qui nous écrit, tu peux pas avoir tes clés de voiture avec toi en étant sous dans ta voiture. C'est illégal. Mais écoutez, ce que le juge a dit, c'est pas d'intention, pas de crime. T'avais pas l'intention de prendre ta voiture et on t'a cru dans ton explication et donc on t'a acquitté. C'est spécial, pareil, là.
C'est sûr que les policiers ont à faire respecter ce qu'ils ont à faire respecter. Eux, ils arrivent puis ils voient qu'il y a quelqu'un qui est couché dans l'habitacle, qui est sous, ben, il n'y a pas le choix de faire son travail,
le policier. Oui, absolument.
Ça veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'il fait, là, le policier non plus.
Mais non, c'est ça.
Mais je suis contente de voir qu'effectivement, quelqu'un a décidé de ne pas prendre son volant, d'être un citoyen responsable. Malheureusement, il n'y avait pas assez de sous, il s'est couché dans sa voiture puis il pas démarrer la voiture.
Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'est-ce qui est mieux dans cette situation-là? J'ai la misère à comprendre cette loi-là un petit peu. C'est sûr que c'est tough. C'est un petit peu difficile de dire, d'être sûr à 100% qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa voiture. Mais dans les faits, tu sors d'un bar complètement sous, tu peux pas prendre ton auto, puis tu n'as pas d'argent pour dormir à l'hôtel. Oui. Tu n'iras pas dormir sur un banc de parc. Je pense que tu prennes ta voiture à proximité, puis tu vas faire un petit dodo sur la banquette arrière. Mais il me semble qu'il n'y a pas de crime là.
Mais veux-tu que je t'en rencontre une? Quand j'étais jeune, là, on était parti faire un genre de road trip aux États-Unis. Avec un ami, puis on savait, on était jeune, pauvre, tout ce que tu veux, là. Puis on décide de partir avec une voiture, avec une tente, tout ce qu'il faut. Mais nous, on s'était fait arrêter parce que dans la nuit, on était vraiment fatigués. On s'est dit, mon Dieu, on n'aura pas le temps de trouver un camping, on va s'endormir au volant. Fait qu'on était allé dans un endroit vraiment retiré de la route. On n'était pas du tout sur la route, on n'était pas dans une halte routière, mais dans un endroit, je me rappelle pas trop c'était quoi. On s'est fait réveiller le lendemain matin par un policier, puis on a eu un avertissement parce qu'on avait une tente dans le coffre. Mais la raison, c'était vraiment. Si vous avez une tente, OK, je comprends. Mais sinon, la prochaine fois, c'est un hôtel. On n'avait pas de sous pour un hôtel.
Ben, c'est ça.
On capotait de se faire arrêter pour ça puis de se faire donner un avertissement.
Et tu vois, Nadia nous écrit, mon ami, il y a de nombreuses années, avait laissé les clés sur le pneu, à l'extérieur de la voiture. Et la policière nous a laissé dormir. Ouais, il était 4h du matin, près de la Grande Allée.
C'est le truc, mais il ne faut pas le dire.
Ah oui?
Oui.
C'est ça. Tu ne peux pas avoir tes clés à l'intérieur du véhicule, mais ils peuvent être à l'extérieur.
Oui, ben, la loi, c'est comme ça qu'elle est écrite, que tu ne peux pas l'avoir dans l'habitacle.
Ben, tu vois, notre collègue dit que tu peux pas non plus l'avoir sur le pneu au niveau de la loi, là, c'est ça? Fait que, en tout cas, il semble que tu peux pas pantoute être sous dans un auto avec les clés à proximité. Ben oui, s'il y a un policier qui nous écoute, 25226 au studio commercial fm93.com ou appelez-nous, c'est 70-9330. La loi, exactement, c'est quoi au niveau des clés? En fait, dites-nous donc, c'est quoi la meilleure pratique à faire? Si je sors d'un bar, je suis complètement chaude, j'ai plus d'argent sur moi, mais mon auto est à proximité, qu'est-ce que je fais? Je dors sur le trottoir ou je dors dans mon auto?
Ouais.
Non, mais c'est quoi les options qui sont vers moi, là, finalement?
Alors, le taxi, mais faut que t'aies de l'argent. T'sais, j'ai l'impression qu'il va te dire faut que tu prennes tes responsabilités rendues là. Mais la clé sur la roue, c'est peut-être le fait que t'sais, ça paraissait qu'elle était cachée là, pour éviter de l'avoir sur soi, mais qu'elle était quand même à proximité de toi.
Je pense que c'était pour montrer à la personne qui allait passer, garde, je dors dans mon auto, sauf que la clé est sur le pneu. Donc visiblement, je la prendrai pas bientôt. Tu peux même la prendre toi si tu veux. Là. Mais c'est quoi la solution d'abord? Dites-moi là. Si j'ai pas le droit de dormir dans mon auto, puis j'ai plus. Mettons qu'il arrive de quoi, là, tu t'es fait voler ou whatever, t'as plus d'argent sur toi. Il faut que tu dormes à quelque part. Mais tu fais quoi? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que je fais au niveau légal? Parce que tu n'as pas le droit non plus de dormir sur des endroits publics, sur un banc de parc. Là, c'est ça. Il y a bien des policiers qui donnent des amendes aux itinérants pour ça, même s'il y a une certaine tolérance quand même qui est effectuée. Mais dites-nous, c'est quoi la meilleure pratique à ce moment-là? J'aimerais ça savoir, parce que j'ai l'intention que ça m'arrive. Je ne suis pas genre à sortir d'un bar comme ça, complètement sous, puis pas avoir d'argent sur moi. Mais quand même, j'aime bien mieux quelqu'un qui fait ça que quelqu'un qui prend son auto en état d'ébriété, puis qui cause un accident et qui finit par tuer quelqu'un. Là. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit, qu'arrive-t-il à quelqu'un qui est stationné, ben c'est exactement ça. Lui, il était stationné dans un stationnement. Là, finalement, il était stationnement assez isolé. Il n'était pas du tout sur la voie publique. C'est pour ça que j'ai un peu de misère à comprendre la loi, là, sincèrement. J'ai ben de la misère. Et puis, il y a des gens qui nous écrivent, à quoi le volant? Ils vont faire quoi avec les propriétaires de campeurs et pour les conducteurs de camions qui dorment dans leur camion? C'est vrai, si t'es à prendre une petite bière au bar à côté, puis tu dors dans
bière,
ton camion.
Une bière, c'est correct. J'imagine qu'il y a une tolérance aussi, là, mais quand t'es rendu chaud puis t'es camionneur, pas sûr que c'est une bonne idée. Là.
Non, tu travailles même quand tu dors, à la limite. Là. Quelqu'un qui dit, mets tes clés dans le coffre et dors sur le banc arrière. Non, tous les coffres s'ouvrent de l'intérieur. l'intérieur, ouais, mais de ce qu'on comprend, la clé ne peut être nulle part là, sur ta voiture, dans ta voiture.
Ben c'est ça là, c'est à moins que c'est la, parce que si les policiers arrivent puis ils disent sont où tes clés, tu dis sont dans mon coffre, mais il semble qu'ils sont assez loin de toi, ben, là, ils sont pas à proximité.
Mais crime, je trouve ça bizarre l'histoire de notre collègue parce que il me semble bien que si ta clé est comme caché sur ta roue, là, qui est le truc assez connu, tu pourrais t'en sortir. Mais là, s'il est tombé sa clé et que t'avais l'air d'un niochon parce que tu sais pas trop quoi dire, ça
serait en dessous de la voiture. Il est pas sur la voiture, il est sur la chaussée.
Ou bien au niveau de la loi, t'as pas le droit, mais les policiers exercent une tolérance ta clé est sur tes pneus. Là, parce qu'à un moment donné, tu vas te fier à la bonne foi du monde aussi. Là. J'aime bien mieux que tu dormes dans ton char quand t'es sous, que tu prennes le volant. Là.
Mais je réitère, le policier fait juste sa job. Par contre, je suis contente de voir qu'un juge a dit t'avais pas l'intention de le faire.
Ah non, c'est certain, là, c'est vrai. Alors, on va voir ce que ça va donner. S'il y a un policier qui veut nous écrire d'ici la fin de l'émission, je voulais quand même, parce que la question m'intéresse. C'est quoi la meilleure pratique? Il y a quelqu'un qui nous dit la police te reconduit, mais c'est pas tous les policiers qui font ça. Oubliez ça, là.
Si vous tombez. J'ai entendu ça en plus. Là.
Moi, j'ai déjà entendu ça, mais c'était un événement assez spécial de la part du policier qui accepte de faire ça. Certains vont le faire, puis sont très gentils parce que ça rentre pas du tout dans leur tâche d'aller reconduire du monde sous à la sortie des bars, là.
Moi, on m'a reconduit une fois, puis c'est pas parce que j'étais chaud, là, c'est parce que j'avais resté pris avec ma voiture. J'avais resté pris dans un banc de neige, puis le policier est vraiment super smart, m'a dit je vais aller te porter chez vous, loin.
Mais ils sont pas obligés de le faire, solution, c'est pas d'appeler le 911 pour avoir un lift, là, on s'entend.
Non,
là.
C'est ça, exact.
Il est 7h58.
Pour communiquer avec notre studio, texto 25226. Vous cherchez des électros à bas prix? Saviez-vous que présentement, Corbeil ne vous offre que les meilleurs prix sur tous ses électroménagers? Non seulement vous profitez du meilleur prix, mais vous profitez également des conseils du spécialiste. En plus, nous vous offrons la livraison gratuite le lendemain de votre achat. Sans oublier que le spécialiste vous offre le financement gratuit sans intérêt. Corbeil est la destination pour trouver tous vos électros, et ce, au meilleur prix garanti.
Le spécialiste l'électroménager, c'est Corbeil.
Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeilelectro.com.
Un an, ça passe vite. La preuve? En un an, les Nordiques n'ont pas eu le temps de se rendre à Québec. Le pont Champlain n'a pas eu le temps de devenir un pont. La chanson Despacito n'a pas eu le temps de nous sortir de la tête. Ce petit cru n'a pas eu le temps de devenir un grand cru. Et Marcel, ici présent, n'a pas eu le temps de terminer Game of Thrones.
Non, je suis juste rendu à la saison 5.
Oui, un an, ça passe vite. C'est donc l'occasion parfaite d'essayer le Nissan Titan et de constater qu'il n'a rien à envier aux autres. Louez le Nissan Titan SV à cabine double pour seulement $387 par mois, l'équivalent de $89 par semaine, pendant 12 mois. Et vous verrez qu'un an, c'est vraiment pas assez. Jusqu'au 31 juillet, sur approbation de crédit, $2495 en comptant initial. Allocation totale de 20 000 km. Détails et conditions chez Nissan.
Aux yeux de tous les parents, les enfants sont uniques. Malheureusement, les enfants qui souffrent d'une maladie orpheline le sont encore plus. Et la médecine est limitée pour eux. JOIA, qui signifie joie, s'est donné pour mission d'offrir à ses enfants une multitude de soins et d'activités en pleine nature afin qu'ils s'épanouissent pleinement. Soyez généreux. Vos dons leur permettront de renouer avec leur pouvoir d'émerveillement. Visitez lesenfantsgioia.com.
Des opioïdes peuvent vous être prescrits pour soulager la douleur. Mais en prendre plus que ce qui est recommandé peut provoquer une surdose. Si vous prenez des opioïdes, comme de la morphine ou de l'oxycodone, redoublez de vigilance et respectez toujours la posologie. Si vous n'y arrivez plus, parlez-en à un professionnel de la santé. Une pilule de trop peut tout faire basculer. Pas de risque à prendre. Visitez québec.ca/opioïdes pour en savoir plus. Un message du gouvernement du Québec.
C'est quoi la différence entre une patate et une patate nouvelle? La patate nouvelle, ben, elle est nouvelle. La pomme de terre nouvelle du Québec est enfin arrivée en épicerie. C'est là, là. La patate du Québec, c'est bon. Puis en plus, c'est bon.
Comment Mazda célèbre 50 ans de passion de conduire? En vous offrant le Mazda CX-5 2018 à partir de l'équivalent de $69 par semaine. Oui, un Mazda CX-5 2018 à $69 par semaine. Et pour seulement $10 de plus par semaine, vous obtenez la traction intégrale. C'est notre façon de vous dire merci d'avoir fait de nous la marque automobile la plus récompensée de l'histoire de l'Ajac. Faites vite, c'est jusqu'au 31 juillet. Location 60 mois à compte de 2295 $, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda.
Flash pub. Les Rôtisseries Saint-Hubert vous offrent le régal d'été au comptoir, service à l'auto et en livraison à partir de 11,95 $ pour une cuisse de poulet, deux ailes de poulet, une tarte au sucre et une limonade.
FM 93.
CGMF 93.3 Québec.
Le FM 93, c'est de l'actualité, c'est de l'opinion, c'est du sport, c'est des collaborateurs de tous les milieux.
Une radio Cogeco Média.
FM 93.
Audace, crédibilité, Québec. FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête.
8h02, on commence avec un rapport de trafic avec Alex.
Un rapport de quoi?
De trafic, mais il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais ici de bord en matin?
Je ne sais pas trop, c'est assez tranquille. Si vous avez quelque chose pour nous, faites étoile 93.3.
La circulation présentée par Paquette Nissan à Lévis. Vous serez équipé pour l'été avec la liquidation des Sentra. Financement à partir de 0 % jusqu'à 84 mois ou 3 000 $ de rabais. Une Paquette et rien d'autre.
Deux Québécois se sont fait arrêter après avoir mis le feu à leur voilier. Selon le Journal de Québec, l'embarcation qui se trouvait dans la mer des Caraïbes contenait plus de 1500 kilos de cocaïne. Les agents de la marine française ont réussi à éteindre le brasier, à saisir la marchandise et arrêter deux suspects. Langis Bélanger, 55 ans, et Martin Lepage, 53 ans, sont actuellement sous les verrous en Martinique. Ils ont comparu devant un juge à Fort-de-France mardi. Selon le journal, les suspects partaient du Venezuela. Une femme qui a perdu son conjoint doit se battre pour le faire reconnaître comme le père de son enfant. Le Journal de Québec écrit que Jean-Daniel Savard partait de l'Ontario pour aller rejoindre sa conjointe qui devait accoucher de leur premier enfant à Saint-Félicien. Sur la route, l'homme de 36 ans a été happé par un poids lourd. Il est décédé sur le coup. Depuis son décès, Julie Duchesne se bat pour que son fils porte le nom du père qu'il ne connaîtra jamais. Le directeur de l'État civil lui a laissé deux choix. Lui donner son propre nom de famille ou aller en cour pour faire reconnaître la paternité pour le bébé. Et finalement, en Grèce, l'incendie de forêt près d'Athènes a fait au moins 82 morts jusqu'à maintenant. Les autorités grecques affirment qu'elles ont des indices importants, laissant croire qu'un acte délibéré serait à l'origine de l'incendie. Les recherches pour retrouver d'autres victimes sur la terre et dans la mer se poursuivent.
Les Alouettes de Montréal ont subi un revers de 44-23 face aux Eskimos d'Edmonton au stade Percival Molson. Déception pour les partisans sur place. Le nouveau venu et ex-vedette de la NFL, Johnny Manziel, n'a pas joué le match en question. Les Blue Jays de Toronto ont échangé le lanceur partant J.A. Happ aux Yankees de New York. Et les Capitals se sont inclinés pour une quatrième fois en 5 rencontres au compte de 5-1 face aux Miners à Sussex.
Alternance soleil-nuage depuis le début de la journée, c'est ce qu'on prévoit là, pour une bonne partie de l'avant-midi. Par contre, 60 % de probabilité d'averse, c'est ce qui est prévu pour le reste de la journée. Même cet après-midi, un risque d'orage. Maximum à 25 degrés avec l'humidex, ça pourrait monter jusqu'à 30. Encore une journée assez étouffante. Demain, samedi, 24 degrés comme maximum avec un très faible 40 % de possibilité d'averse. Pour dimanche, des averses et le retour du soleil est prévu pour lundi. Actuellement, il fait 19 à Québec.
La météo, présentée par Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair et leur événement Passez chercher votre chèque de vacances. 2000 ou 4000 $ comptant le jour même selon le modèle choisi et on rachète votre bail. C'est le temps de changer pour une Kia. On est ouvert le samedi chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
FM 93. 8h05, on vous a parlé en début d'émission car c'est sur la une du Journal de Québec de cette histoire d'une femme qui s'appelle Julie Duchesne qui vit un drame assez épouvantable présentement qui est la perte de son conjoint. Jean-Daniel Savard se rendait à l'accouchement de sa conjointe au moment où il y a eu un accident mortel et donc il n'était pas là pour la présence pour l'accouchement de son enfant, pour la naissance de son enfant. Il ne sera pas là non plus pour les premières années de vie de son enfant. Donc, Julie
Duchesne ne sera jamais là.
Julie Duchesne a dû accoucher seule et a dû apprendre au même moment où elle donnait naissance, où elle donnait la vie, qu'elle avait également perdu le père de son enfant. Alors, on dit qu'en plus de devoir jongler avec la paperasse légale, les assurances, l'organisation des funérailles, on sait que si vous avez perdu un proche, c'est pas des semaines qui sont faciles par après parce qu'en plus de dealer avec vos sentiments, de gérer votre peine, vous devez aussi gérer tout ce qui entoure les funérailles et les assurances et tout ce qui entoure finalement la perte de quelqu'un. Elle doit aussi donc vivre son deuil. Et lorsqu'elle a contacté le directeur de l'État civil pour enregistrer son enfant légalement, parce que c'est ce qu'on doit faire quand un enfant naît, on lui a laissé deux options, deux choix. Soit tu donnes ton propre nom de famille ou bien tu t'adresses aux tribunaux pour contester la loi. Parce qu'il y a une loi qui dit que si vous êtes marié avec quelqu'un et que votre conjoint décède durant la grossesse et qu'il n'est pas présent à l'accouchement parce qu'il est décédé, ben automatiquement, vous pouvez donner le nom de famille de votre conjoint. Par contre, si vous n'êtes pas marié, la paternité n'est pas reconnue. Automatiquement, vous devez aller la prouver en cour. C'est quoi cette histoire-là? Madame Julie Duchesne, elle est très, très chanceuse parce qu'il y a un avocat du cabinet, Mercier Giguère, qui a décidé de prendre la cause et de l'aider là-dedans. S'il avait fallu en plus qu'elle débourse des sommes exceptionnelles pour aller faire reconnaître la paternité juste pour avoir le nom de famille de son enfant, je peux pas croire qu'elle aurait dû passer au travers ça en plus. On va aller parler à l'avocat présentement. Premièrement, pour connaître c'est quoi cette loi-là, c'est quoi les subtilités de cette loi-là, pourquoi elle existe et est-ce qu'il y a un futur pour ces gens-là de voir peut-être cette loi-là changer? C'est Maître Mercier Giguère qui est avec nous ce matin. Maître Mercier Giguère, bon matin.
Bon matin.
Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce que dit la loi exactement par rapport à donner un nom de famille à son conjoint lorsqu'il est décédé?
En fait, il faut se référer à l'article 114 du Code civil du Québec. Et le Code civil du Québec, vous l'avez très bien dit en entrée de jeu, vient dire que il y a seulement les parents qui peuvent déclarer, donc donner leur nom à l'enfant. Et dans le cas où ils sont mariés, bon, mais c'est possible de le faire. Par contre, s'ils ne sont pas mariés, la seule autre alternative, c'est de procéder par les tribunaux qui donnent leur accord. Donc, dans notre présent cas, qui est similaire à d'autres cas qui sont survenus, le directeur n'a pas l'autorité de procéder à donner le nom sous le certificat de naissance. Donc, c'est pour ça qu'on doit malheureusement aller devant les tribunaux.
Mais à la base, cette loi-là a été créée pour quelle raison? J'imagine qu'en tant qu'avocat, vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille. Moi, je vois pas l'autre côté de la médaille. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans le fait de donner le nom de famille de son conjoint, même si on n'est pas marié. Surtout que la réalité du mariage a beaucoup changé aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant. Donc, à la base, pourquoi on a créé cette loi-là?
Ben, en fait, je suis pas historien du droit. Cela étant dit, on peut comprendre que il y a deux choses. Il y a le nom et il y a aussi la paternité. Et je fais une différence entre ça. Donc, le fait d'avoir un nom que pas nécessairement en soi vous portez un nom de famille X comme Mercier, c'est pas en soi nécessairement que votre père est déclaré sur le certificat de naissance. Là, là où il y a une problématique, c'est lorsqu'on veut inscrire comme père une personne sur le certificat de naissance. Madame, elle veut pas avoir père inconnu. Donc, puis on peut la comprendre dans les circonstances. Il y a une question aussi légale. Je vous donne un exemple. Si, dans le présent cas, il va y avoir toute une succession de ces choses-là. Ce qu'on veut faire par cet article-là, c'est de protéger, dans le fond, un peu, pour pas que le monde fasse ce qu'ils veulent puis inscrive la personne ou le nom qu'ils veulent sans avoir absolument aucun contrôle. Donc, on peut comprendre ça. Faut savoir que ça a déjà été débattu dans un comité de réforme du Code civil. Donc, on appelle ça la présomption de paternité. Et à l'époque, ça avait été refusé. On me dit que c'était pas mal égal, là, les opinions, mais ça avait été refusé à l'époque, là.
Et est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas raison de modifier cette loi-là aujourd'hui? Parce que maintenant, j'ai l'impression que des conjoints de fait qui vivent ensemble depuis 5 ans, 10 ans, ça a autant de valeur qu'un couple marié au niveau de la crédibilité de la paternité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec la réalité dans laquelle on est par rapport au mariage, il n'y aurait pas lieu maintenant de modifier ça pour intégrer ça à conjoint de fait, disons? Le fait d'avoir quelqu'un qui vient tout juste de commencer une nouvelle relation puis qui veut donner le nom de n'importe qui, je comprends qu'il faut avoir un certain contrôle. Mais maintenant, dans notre réalité, est-ce que ça devrait pas être plutôt les conjoints de fait ont ces droits-là plutôt que seulement les gens mariés?
Bien, effectivement, vous savez, comme avocat, en IT, on le dit souvent, puis on le dit souvent dans les médias, on essaie, le système judiciaire au complet est saturé, donc on essaie d'aller le moins possible à la cour. Dans notre présent cas, il faut quand même aller à la cour. Ça reste une procédure qui est de type plus administratif parce que il n'y a pas de contestation de ces choses-là, mais vous comprendrez que c'est pas très agréable pour le parent qui doit déjà supporter les circonstances qui sont difficiles, faire en plus d'aller à la cour de payer des frais et de présenter ses arguments. Donc, il y a différentes avenues qui pourraient être possibles, mais une des avenues, ça serait tout simplement de dire le directeur de l'État civil, de lui donner les droits dans des circonstances, par une preuve circonstancielle, donc, exemple, un affidavit, un témoignage écrit, que le grand-père ou la famille du défunt viendrait inscrire, bon, ben, nous, on a de la preuve, il a publié des choses sur sa fille sur Facebook, on savait qu'il était enceinte, on sait qu'il y a le père, il a reconnu qu'il y a le père. Et à ce moment-là, le directeur de l'État civil pourra avoir l'autorisation et la discrétion d'inscrire le nom du père et il pourrait se retrouver à la cour à chaque fois.
Et parlons donc de la procédure que vous allez devoir entamer avec cette jeune femme-là, parce que vous avez décidé de la prendre sous votre aile pour l'aider. Qu'est-ce que c'est exactement cette procédure-là? Est-ce qu'on fournit de l'ADN? Est-ce qu'on doit fournir des preuves autres? Comment ça fonctionne exactement?
En fait, c'est une demande de reconnaissance en paternité, et ayant comme but ultime de faire inscrire le père sur le certificat de naissance. C'est pas un dossier qui est extrêmement compliqué en ce sens que qu'on doit prouver essentiellement, puis je vous vulgarise ça, c'est l'intérêt de l'enfant. Il faut prouver par des preuves circonstancielles, donc la manière que le père agit, des témoignages écrits de la famille du père, ou des témoignages en personne, évidemment. Et dans certains cas, on est venu établir qu'un test d'ADN était nécessaire. À ce moment-là, on fait le test d'ADN avec le grand-père, donc le père du père, puisqu'on est capable d'établir le lien de filiation avec le petit-enfant. Et on présente ça à la cour et c'est accepté la plupart du temps. Évidemment, ça reste qu'il y a des coûts rattachés à ça, ne serait-ce que pour faire le test ADN. Et il y a le temps aussi que ça prend pour faire ça.
Et justement, par curiosité, en terminant, pour une cause comme ça, évidemment, je sais que les frais dépendent des charges que l'avocat va donner au client. Vous avez un tarif à l'heure, finalement. Mais en moyenne, c'est un dossier qui pourrait prendre combien d'heures pour un avocat? Disons que Julie Deschênes avait eu à payer pour ça. On parle d'une procédure qui pourrait coûter jusqu'à combien d'heures?
Ben écoutez, dans un dossier litigieux, c'est toujours difficile d'évaluer le nombre d'heures. Dans ce cas-ci, on le fait pour bono. Ça nous fait plaisir d'aider madame dans les circonstances. Un test d'ADN, on parle entre 600 et 1000 $, donc déjà en partant. On a un timbre judiciaire, donc lorsqu'on dépose une requête, il y a des frais qui doivent être payés. De mémoire, c'est à peu près 200 $ et des frais d'ici. Donc, vous êtes à 500, vous êtes déjà à 1500. Plus le temps de l'avocat, là, ça va dépendre est-ce qu'il y a des déplacements, est-ce qu'il y a des remises à la cour. On peut évaluer une dizaine d'heures facilement, donc 1 000, 2 000 $ minimum, ça ne serait pas exagéré. Évidemment, si vous avez des avocats qui chargent 800 $ ben là, vous avez le calcul à faire, donc ça peut monter assez rapidement.
Excellent. Ben, maître, merci, Giga. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir éclairé un petit peu le dossier.
Ça nous fait plaisir.
Merci beaucoup. Merci, maître. Merci, Giguère. Et l'avocat qui a décidé de prendre Julie Deschênes sous son aile. Ils font ça pro bono, c'est-à-dire que Julie Deschênes, depuis le début, c'est Deschênes, et elle n'aura pas payé pour ces procédures-là. Julie Deschênes a perdu son conjoint alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle était même en contraction. Elle avait déjà commencé le travail. Son conjoint, Jean-Daniel Savard, était en train de se rendre à l'endroit de l'accouchement à l'hôpital. Et sur le chemin, il y a eu un accident mortel. C'est-à-dire que, donc, finalement, il est décédé avant que l'enfant puisse naître, ce qui fait en sorte, parce que le couple n'est pas marié, que la paternité n'est pas reconnue automatiquement. Tu dois aller en cour pour prouver cette paternité-là, chose que les couples mariés n'ont pas à faire dans le cas où le conjoint décède avant l'accouchement. C'est un petit peu archaïque, tant qu'à moi, comme loi. Je pense qu'on pourrait définitivement modifier ça aujourd'hui et élargir ça au conjoint de fait, parce qu'un couple peut être conjoint de fait pendant 10 ans, puis un couple peut être marié depuis 1 an, 2 ans seulement et se connaître depuis très, très peu de temps, mais ce couple-là n'aura pas à passer au travers ce que le couple de conjoint de fait va avoir à traverser.
Puis sais-tu, j'en profite pour applaudir l'avocat qui a décidé de faire ça gratuitement pour elle.
Oui.
Je trouve que des gestes comme ça, on en voit quelquefois dans des causes différentes, là, mais il faut réellement applaudir ça.
Oui, puis on parle souvent des avocats comme étant des sources infinies d'argent, puis qui facturent donc du temps pour faire de l'argent, mais tu as aussi des avocats qui font ça pour le monde.
Qui ont le cœur à bonne place.
Puis c'est le cas de cet avocat-là qui a décidé d'aider cette dame-là pro bono, et on espère que ça va bien se terminer pour elle. 8h15.
Bouchard en parle, avec Élisabeth Crête, FM 93.
Vous vous souvenez probablement d'un concours qu'on a fait, donc c'était il y a quelques mois, et c'était un concours auquel vous pouviez participer, et le prix à gagner, c'était un voyage à Oslo pour être reporter citoyen pour le FM 93. On avait donc comme on avait comme mandat pour vous de vous rendre à Oslo pour tester entre autres le tramway parce que c'était dans la foulée du débat sur le tramway. Qu'est-ce qu'on allait avoir comme transport structurant ici à Québec? Est-ce que c'est la bonne solution pour nous? Alors la personne devait se rendre à Oslo pour tester le tramway et aussi pour tester le plus long tunnel qui a jamais été conçu, qui est de plusieurs kilomètres. Là. Vraiment, là, c'est, je pense que c'est même une trentaine de kilomètres, je ne me trompe pas, une affaire vraiment, vraiment longue. Mm-hmm. Mais finalement, c'est très, très moderne et la reporter s'est rendue là. Mais le concours, ça s'est fait en plusieurs étapes et à la dernière étape, on avait deux personnes qui restaient. Et c'était à vous, les auditeurs, de pouvoir voter pour votre candidate préférée et ça a été un résultat très, très serré. C'est finalement une candidate qui a pu quitter pour Oslo. Et l'autre candidate qui était finaliste avait tellement aimé le processus du concours et s'était tellement informée sur Oslo pour être prête pour son voyage au cas où elle allait gagner.
Qui a décidé de se rendre là-bas.
À ses frais. Elle est partie à ses frais à Oslo pour faire ce voyage-là. Et on a gardé contact avec cette deuxième candidate-là, bien sûr. Et présentement, elle est en Italie. Elle m'a écrit cette semaine. Elle dit, si tu veux un autre reporter citoyen, je suis en Italie présentement. Elle dit, j'ai testé les trains là-bas. Je suis entrée dans un magasin de cannabis où on vend des produits dérivés qui sont aux potes. Alors, je peux vous parler de ça. Mais j'ai dit, avec plaisir, on va la rejoindre à l'instant. C'est Caroline Dugal, notre presque reporter citoyen qui avait été finaliste pour notre concours à Oslo. Elle est en ligne avec nous. Caroline, bon matin.
Bon matin à vous tous.
Et ça nous fait plaisir de te reparler ce matin. Présentement, tu te trouves où exactement?
Je suis présentement à Venise aujourd'hui. On est arrivé hier de Florence par train. Et aujourd'hui, on visite Venise pour quelques jours encore.
Et là, Caroline, j'imagine quand dans ta préparation de reporter citoyen dans le but de gagner le concours de Oslo, tu as gardé certains réflexes, tu as dû arriver en Italie et un peu regarder autour comment ça se passait pour comparer avec Québec.
Ouais, ben c'est sûr que là j'avais pas le je suis plus en mode vacances, donc je suis moins
Oh, on a-tu perdu Caroline?
Et moins,
On ne saura jamais elle est moins quoi finalement. On va tenter de retrouver Caroline. La ligne semble avoir coupé. C'est dommage. J'espère qu'on va pouvoir lui reparler parce qu'entre autres, Caroline a testé le transport en commun là-bas, des trains et apparemment qu'elle en avait long à dire sur les trains là-bas. Elle m'a envoyé une photo aussi d'un magasin de cannabis légal où on vend des produits dérivés. Il y a eu toute une controverse par rapport aux produits dérivés du cannabis ici cette semaine. On disait que bon, est-ce que ça allait être trop accessible pour les enfants? L'histoire à Halifax, c'était qu'une jeune fille de 10 ans avait mangé une tablette de chocolat au cannabis qui appartenait bien sûr à son père. Elle a été hospitalisée à la suite de tout ça. Et nous, les produits dérivés, en passant, c'est pas au mois d'octobre que ça va être légal.
Ça sera pas
légal tout de suite. Par contre, le gouvernement de Justin Trudeau a été très clair à l'effet qu'il voulait rendre ça légal. Alors, c'est pas impossible que dans les sociétés québécoises du cannabis, éventuellement, il y ait des produits dérivés. Mais en Italie, il y en a. C'est officiel et c'est vraiment ça. Je sais pas si on va être capable d'aller retrouver Caroline. Elle est de retour. Caroline!
Oui, je suis là.
Effectivement. Caroline, on va aller tout de suite au fond du sujet. D'un coup que le téléphone lâche encore, on va en profiter pour parler de ce dont on voulait parler. Tu as entre autres testé les trains en Italie et tu m'as dit que tu en avais long à dire sur ce mode de transport-là.
Oui, c'est assez un peu bordélique, je pourrais dire. il y a énormément de gens qui utilisent les trains. Il y a beaucoup, beaucoup de retard. Donc, les gens qui se préparent à venir en Italie... Faites pas trop de choses trop serrées parce que ça peut aller des fois jusqu'à, on a vu du 45 minutes, du 55 minutes de retard. Donc, quand on est assez serré dans notre itinéraire, ça peut... Puis nous, on a eu du retard pour notre vol pour s'en venir ici. Donc, on a eu un 7 heures de retard. Donc, on a réussi à prendre le dernier train pour se rendre à Florence de justesse. Après ça, on était pris, sinon, à l'aéroport et il fallait trouver une alternative. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de retard, mais il y a aussi beaucoup de contrôle dans les trains. On avait parlé un peu avec Sylvain quand j'étais à Oslo. Que les gens, c'était sur l'honneur là, d'avoir son billet et tout ça. Et il ne s'agit pas juste ici d'avoir son billet pour le faire valider dans des machines. Sinon, il y a des contrôleurs, beaucoup, beaucoup. C'est la première fois que j'en vois autant. Donc, il y a vraiment un contrôle très serré de ça. Et on a même vu des gens en allant à Sainte-Terre, là, qui est une place sur le bord de la mer où il y a 5 villages. Donc, il y a un petit train qui fait les 5 villages et il y a des gens qui avaient oubliés, peut-être.
OK.
Valider leur billet et ils se sont fait accompagner à la sortie quand au prochain village.
Ah,
et
oui?
Là, il y avait une amende.
Ah oui?
Donc, je ne sais pas exactement, là, on a entendu 300 euros. Moi, je trouvais ça pas mal, là, mais on savait pas si c'était pour le groupe ou par personne, là, mais en tout cas, ils ont eu une surprise au lieu d'oblitérer leur billet de 4 euros, ils ont eu une petite facture à la sortie du train. Ben là, oui. Donc,
300 euros, ça commence à faire cher l'amende, effectivement. Et Caroline, donc, tu as utilisé beaucoup les trains présentement. Bon, beaucoup de retard, beaucoup de contrôle. Je sais que tu n'es pas là depuis extrêmement longtemps, mais est-ce que tu as pu observer un petit peu au niveau de la ville comment ça fonctionne pour le transport en commun?
Oui, ben nous, là, présentement, on reste un peu sur sa messe. Ça s'appelle Mestre en face de Venise. Donc, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et quand on voyage avec des grosses valises, venir à Venise, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de ponts, comme on voit souvent dans les photos de Venise.
Oui.
Donc, nous, on a décidé d'être de l'autre côté. Et là, on prend un bus pour s'en venir sur l'île de Venise. Donc, ça va très bien. C'est pas cher. C'est 1,50 $ du passage. Mais nous, ce qu'on a fait, on s'est acheté une passe pour 2 jours parce que avec cette passe-là aussi, on peut prendre les vaporetto, donc les bateaux pour aller dans les îles autour, aller voir l'île de Murano ou tous les vers soufflés de Murano là qu'on entend souvent. C'est là que ça vient. Donc ça, c'est 7,50 $ du passage. Donc ça fait 15 $ pour aller à la ville. Donc
c'est assez cher.
C'était plus avantageux de prendre une carte pour 2 jours là pour voyager. Fait que
C'est vraiment cher, là. C'est pas mal plus cher qu'un passage du RTC ici à Québec, là.
Oui, 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 c'est ça. Puis les tramways, comme je t'avais mentionné, à Florence, il y a une ligne de tramway puis deux en devenir là,
ouais.
Qui sont en train de préparer. Mais la ville est tellement petite, tu sais, ça se fait très, très bien à pied. Nous, on restait à côté de la gare de train, donc on arrive direct et on n'a pas eu besoin de prendre de transport pour aller à notre hôtel. Et pour visiter le centre-ville de Florence, ça se fait à pied en 15 minutes, entre 15 et 30 minutes, on passe d'un côté à l'autre.
Ah oui? J'allais te demander, mais il me semble qu'une ligne de tramway seulement, c'est pas tellement, c'est pas vraiment beaucoup pour un projet de transport structurant, sauf qu'avoir la grandeur et la grosseur de la ville, c'est peut-être justifié qu'il y en ait juste une, là.
C'est ça, mais ce que j'ai lu, c'est que quand même, les gens ont, tu sais, il y a des gens qui restent quand même en banlieue, là, qui travaillent à Florence, donc, pour eux, ça part de la banlieue, puis ça s'en vient au centre-ville de Florence. Fait que pour eux, c'est très avantageux là, d'avoir cette ligne-là. Puis il va y avoir une ligne qui va aller à l'aéroport à Florence. Fait que ça aussi, ça va être un plus. Puis ici à Venise, ben il y a une ligne aussi, parce qu'il y a un pont qui relie la terre ferme avec Venise. Et il y a une ligne qui fait ça, sauf que... Nous, c'était pas près de notre hôtel, donc c'était plus facile par autobus.
Parfait. Caroline, maintenant,
ça
on va...
Ça va très bien.
Ouais, bon, ben super. Puis on va parler de potes maintenant, Caroline, parce qu'une chose que tu m'as dit, c'est que je suis entrée dans un magasin de produits dérivés de cannabis. On sait qu'ici, les produits dérivés, on n'est pas rendu là encore. Le pot va être légal au mois d'octobre. Pour l'instant, les produits dérivés vont demeurer illégaux. Par contre, Justin Trudeau a mis ça très, très clair, qu'il voulait rendre ça qu'il voulait légaliser ça le plus tôt possible aussi pour les produits dérivés. Comment c'était d'entrer dans un magasin de produits dérivés de cannabis et dans la légalité la plus totale?
Oui, ben nous, on était curieux de voir. On a passé en avant sans savoir que c'était ça. Là. C'est un magasin avec une vitrine très très standard. Là. Il y a juste le signe de cannabis qu'on voit sur la porte. Donc là, on est allé voir, on est rentré voir. Puis c'est ça, eux, ces magasins-là, c'est beaucoup les produits dérivés. Leur marché là, donc c'est une chaîne qui ça s'appelle Amsterdam là. Donc ça vient de d'Amsterdam, puis ils vendent des franchises un peu partout comme là en Italie là.
Ah, ouais.
Ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a plusieurs boutiques là, ils appellent ça comme des coffee shops là.
Okay.
Donc je suis pas certaine qu'ils vendent le cannabis, mais ils vendent seulement les produits dérivés
comme quoi, mettons?
Donc
Ah, il y a toutes sortes d'affaires. Il y avait des biscuits muffins, du chocolat, comme vous avez parlé de la petite fille. Ça m'a fait penser à elle. Ça m'a un peu du thé, du café, de la bière. Il y a aussi des produits, des chandails, des sacs faits à base de chanvre. Donc,
Et dis-moi donc, Caroline, au moment où tu as pu observer la clientèle à l'intérieur du magasin, est-ce que tu pouvais dire hors de tout doute que c'était tous des adultes qui étaient présents ou s'il y avait des gens où tu dis, d'après moi, c'est un mineur, ça, là?
Non, il y en avait quand même qui étaient jeunes. Moi, il y avait beaucoup de curieux là, comme nous qui entraient là, voir, mais j'en ai vu des jeunes, là, tu sais, peut-être 20 ans, là, qui avaient acheté des choses, je ne sais pas vu exactement, ça avait l'air soit des bonbons ou des petits produits, là. C'était pas gros là, ce qu'il y avait dans les mains, là. Mais c'est ça, ils ont c'est pas gros comme surface de magasin.
Ouais. Et est-ce que tu as pu parler à des gens dans le magasin, soit les gens qui y travaillaient ou est-ce qu'ils sont au courant que ça va être légal au Canada?
Oui, le vendeur, en guillemets, qui était là, on lui a dit, nous, on vient voir parce qu'on, tu sais, nous, ça s'en vient chez nous au Canada. Il dit, oui, on est au courant. Mais il était pas très jasant. Je sais pas si c'est parce qu'on est anglais, il était pas très bon, mais on voyait qu'il voulait pas trop nous parler, là. Fait que, on n'a pas trop insisté, là. Il voulait pas me mettre dans le trou pour rien, là. Mais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui rentrent de curieux, mais il y a d'autres endroits comme à Pise, on en a vu un aussi un magasin. Puis il y avait personne, là. Ça dépend des endroits, probablement.
Plus touristique, ça doit attirer plus de monde. Caroline, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, d'être sortie de tes vacances le temps de quelques minutes pour nous faire un petit reportage comme ça. Ça nous a fait plaisir de te reparler. Merci beaucoup.
Ben, moi, ça m'aime.
Merci beaucoup. Alors, bon reste de voyage. Bonne fin de voyage. Merci. Il est 8h28. Caroline Dugal était une des finalistes du concours pour gagner un voyage à Oslo. On envoyait un reporter citoyen pour tester le tramway là-bas et tester le très, très long tunnel qui avait été construit. Caroline, donc, n'avait pas gagné. Elle était la finaliste, mais ça avait été très, très serré au niveau du vote. Et elle avait fini par aller à Oslo quand même parce qu'elle avait tellement aimé la préparation du voyage pour aller à Oslo qu'elle s'était dit, je peux pas croire que je vais manquer toute l'organisation que je me suis faite. Donc, assez frais. Elle est partie à Oslo et cet été, elle est en Italie. Elle m'a contactée cette semaine pour nous faire un petit reportage sur sa vie en Italie. On a parlé donc des trains, du transport en commun et des magasins de cannabis, de produits dérivés du cannabis qui sont tout à fait légaux en Italie. On peut présumer qu'au Québec, d'ici quelques années, on aura aussi des produits, des magasins de produits dérivés aux potes.
Ah oui, puis ça passe partout. On parlait de bière, de pâtisserie, oui,
c'est Molson, je pense, qui veut faire une bière aux potes.
Et vous savez que le Jean Soulard, l'ancien chef du Château Frontenac, va sortir un livre de recettes aux potes aussi bientôt. Ouais. Alors, ça va devenir une tendance. On va arriver aussi, comme c'est le cas en Italie. Il est 8h29.